قال الأستاذ فاروق يا قصيدة مهداة إلى الشاعر السوري والروائي الكبير سليم بركة.
Ce poème est dédié au grand poète syrien, au grand romancier syrien Salim Barakat.
ولكي نفهم القصيدة علينا أن نعرف أنه كردي.
Et il faut pour avoir une pleine compréhension de ce poème savoir que Salim Barakat est kurde.
ويعيش الآن لاجئا سياسيا.
Il est actuellement un exilé politique à Stockholm en Suède.
يتذكر الكردي حين أزوره غدا. يتذكر الكردي حين أزوره غده فيبعده بمكنسة الغبار إليك عني فالجبال هي الجبال ويشرب الفودكا لكي يبقي الخيال على الحياد أنا المسافر في مجازي والكراكي الشقية إخوة الحمقى وينفض عن هويته الظلال هويتي لغتي أنا وأنا أنا لغتي أنا المنفي في لغتي وقلبي جمرة الكردي فوق جباله الزرقاء نيقوسيا هوامش في قصيدته ككل مدينة أخرى على دراجة حمل الجهات وقال أسكن أينما وقعت بي الجهة الأخيرة هكذا اختار الفراغ ونام لم يحلم بشيء منذ حل الجن في كلماته كلماته عضلاته عضلاته كلماته فالحالمون يقدسون الأمس أو يرشون بواب الغد الذهبي لا غد لي ولا أمس الهنيهة ساحة البيضاء منزله نظيف مثل عين الديك منسي كخيمة سيد القوم الذين تبعثروا كالريش سجاد من الصوف المجعد معجم متآكل كتب مجلدة على عجل مخدات مطرزة بإبرة خادم المقهى ستاتين مجلخة لذبح الطير والخنزير فيديو للإباحيات باقات من الشوك المعادل للبلاغة شرفة مفتوحة للاستعارة ها هنا يتبادل الأتراك والإغريق أدوار الشتائم تلك تسليتي وتسلية الجنود الساهرين على حدود فكاهة سوداء ليس مسافرا هذا المسافر كيفما اتفق الشمال هو الجنوب الشرق غرب في السراب ولا حقائب للرياح ولا وظيفة للغبار كأنه يخفي الحنين إلى سواه فلا يغني لا يغني حين يدخل ظله شجر الأكاسيا أو يبلل شعره مطر خفيف بل يناجي الذئب يسأله النزال تعال يا ابن الكلب نقرع طبل هذا الليل حتى نوقظ الموتى فإن الكرد يقتربون من نار الحقيقة ثم يحترقون مثل فراشة الشعراء يعرف ما يريد من المعاني كلها عبث وللكلمات حيلتها لصيد نقيدها عبثا يفض بكارة الكلمات ثم يعيدها بكرا إلى قاموسه ويسوس خيل الأبجدية كالخراف إلى مكيدته ويحلق عانة اللغة انتقمت من الغياب فعلت ما فعل الضباب بإخوتي وشويت قلبي كالطريدة لن أكون كما أريد ولن أحب الأرض أكثر أو أقل من القصيدة ليس للكردي إلا الريح تسكنه ويسكنها وتدمنه ويدمنها لينجو من صفات الأرض والأشياء كان يخاطب المجهول يا ابن الحر يا كبش المتاه السرمدي إذا رأيت أباك مشنوقا فلا تنزله عن حبل السماء ولا تكفنه بقطن نشيدك الرعوي. لا تدفنه يا ابني، فالرياح وصية الكردي للكردي في منفاه يا ابني. والنصور كثيرة حولي وحولك في الأناضول الفسيح، جنازتي سرية رمزية، فخذ الهباء إلى مصائره وجر سماءك الأولى إلى قاموسك السحري، واحذر لدغة الأمل الجريح فإنه وحش خرافي. وأنت الآن، أنت الآن حر يا ابن نفسك، أنت حر من أبيك ولعنة الأسماء. باللغة انتصرت على الهوية، قلت للكردي باللغة انتقمت من الغياب، فقال لن أمضي إلى الصحراء، قلت ولا أنا، ونظرت نحو الريح عمت مساء، عمت مساء.
Toujours sur l'émission Frontline sur FPP 106.3, à l'écoute d'extraits de la conférence tenue il y a quelques jours par Mahmoud Darwish à Paris. On va passer à quelques questions-réponses qu'il y a eu avec la salle sur différents thèmes, notamment sur celui du retour pour la première intervention.
Quand je suis rentré, moi, je suis revenu à mon lieu dont j'avais été éloigné. J'ai eu comme ça de prime abord une sorte d'adhérence entre les paysages et les images que j'en avais gardées à l'esprit. Mais sans être sûr de cette adhérence et de cette conformité. Car en fait, je regardais les lieux, mais à travers les yeux de mon image et pas à travers la réalité du lieu. Et c'est vrai que la réalité n'était pas celle-là. Mais le lieu imaginé est plus docile à la langue que le lieu réel. Quand je l'imaginais de mon exil, de loin, ma langue s'est habituée à le décrire, à le dire sous une certaine forme poétique qui n'était pas en tant que forme présente dans le lieu lui-même. Et donc cette distance, cet écart charge la langue de traits, de caractéristiques du lieu qui n'y sont pas en réalité. Et donc quelques temps après mon retour, on a la désillusion inévitable. Le lieu n'est pas conforme à son image, ni à ses traits imaginés. C'est pour ça que cette distance, cet écart, est l'un des facteurs qui charge, qui dote la langue d'une force qu'on ne trouve pas lorsqu'il n'y a pas précisément d'écart. Et cela est à mon avis lié également avec la poésie amoureuse, notamment chez les Arabes. L'une des conditions de cette nostalgie, de ce désir qu'on trouve dans la poésie classique arabe est précisément le fait que l'être aimé est inaccessible, qu'on en est privé, la privation de l'être aimé. Est-ce que vous imaginez si Qais avait vraiment rencontré Leïla? Je ne parle pas d'un mariage. Je parle s'ils avaient réussi l'un et l'autre à accomplir leur désir. Nous n'aurions certainement pas eu ce poème. Comme je suis accusé en permanence que tout trait, tout, chaque fois que je parle d'amour, en fait, je fais référence à une terre. Et alors, il devient tout à fait normal que je sois si déçu lorsque cette terre n'est pas si poétique que ça. Je n'ai pas de chance avec ma poésie amoureuse puisqu'on passe le temps à l'expliquer comme si bien ce personnage féminin dans ton poème c'est en fait un arbre et cette prestance en fait c'est une métaphore d'une montagne. Donc on a toujours tout expliqué par la métaphore ou comme une référence. Toutes les femmes chez moi ne sont que des formes métaphoriques à des lieux. C'est pour ça que j'ai fait des efforts énormes pour dire que j'étais comme n'importe qui, je pouvais aussi tomber amoureux d'une femme. Et que je ne passais pas ma vie à enlacer les arbres. L'exil, vous êtes rentré également en Palestine. Quel est chez vous, que signifie chez vous le concept de patrie dans votre poésie? Vous avez également parlé du retour, dit que là tout de suite que le retour était une illusion. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez également dans le poème que vous avez lu, qui n'est pas traduit, fait dire à votre personnage kurde, je suis ma langue. Donc s'il pouvait commenter un peu tous ces thèmes. Lorsque je dis que le retour était une illusion, j'étais beaucoup plus dans le registre de la philosophie que dans le registre patriotique. À savoir qu'on ne peut jamais revenir à ce qui a été. Notre conscience a changé, nous avons changé. L'enfant a grandi. Et peut-être qu'il approche la soixantaine. Je veux dire, c'est pas un état stable et figé dans l'attente du retour. Tout se transforme. Donc, de façon existentielle, le retour n'existe pas. Quant au sens plus patriotique, plus national. Ce retour-là également au sens national ne s'est pas accompli puisque les réfugiés ne sont toujours pas rentrés. C'est vrai, quelques individus sont rentrés. Et même pas à leur lieu, même pas à leur ville et village natal. Par exemple, moi je n'ai pas pu rentrer dans ma patrie personnelle. Là où mon être s'est constitué, en tout cas mon premier être. Moi, finalement, je suis rentré à un lieu que je ne connaissais pas, que je ne connaissais pas avant. Et de ce fait, ma présence là-bas, même en Palestine, n'est pas une illustration de l'accomplissement de l'idée du retour. Pour les Palestiniens, l'idée du retour est forcément collective. Parce que toutes les autres explications consistent en dernier ressort, un peu à se tromper soi-même et à se moquer de soi. Il y a une autorité qui a été autorisée à rentrer à Gaza et en Cisjordanie. Elle est rentrée avec ses cadres, leur famille. Mais cela ne veut pas dire du tout que le retour palestinien a été accompli. Quant à la notion, le concept de patrie pour moi, eh bien c'est la patrie, c'est la patrie. Une terre bien, bien précise, avec une histoire, une géographie, un lieu bien délimité.
Et
il serait bien qu'ici j'explique notre la différence entre notre vision de la patrie et notre vision de l'État. Aucun Palestinien ne se libérera de sa propre vision et de lui-même et de son histoire, à savoir que la Palestine est notre patrie. Mais nous sommes dans une situation pour pouvoir aboutir à une solution possible. Après tout ce qui s'est passé dans la région, tous les développements qui ont eu lieu et toutes les réalités qui en sont nées, nous avons dû faire une distinction, à savoir que nous avions le droit d'édifier un État sur une partie de notre patrie, sans que cela altère le moins du monde notre vision, à savoir que toute la Palestine est notre patrie. Parce qu'aujourd'hui, de fait, la Palestine est devenue la patrie de deux peuples. Mais cela ne change rien, ni à mon éducation, ni à mon être profond, ni à ma réalité historique. À savoir que ma patrie à moi est devenue celle de deux peuples. Voici un peu les changements qui sont intervenus un peu dans le concept de patrie chez les Palestiniens.
lignedefront@hotmail.com lignedefront@hotmail.com.
Nous, Palestiniens, et par votre voix, nous avons en quelque sorte déifié la Palestine, et en l'ayant déifiée, en la plaçant au rang des mythes, nous avons créé une divinité qui était toujours en demande de sacrifices et d'offrandes. Et puis vous dites, de par ailleurs, qu'une fois votre retour fait, vous avez et réalisé que la réalité n'était pas celle-là. Et la question aujourd'hui est de savoir, devons-nous continuer dans cette fabrication d'une divinité qui est devenue la Palestine, ou plutôt accéder à l'autre réalité, la réalité réelle, qui est bien en deçà du mythe, qui est plus simple. Je vous remercie pour votre question, et votre question montre que vous êtes un très bon lecteur, un lecteur qui lit intelligemment. La Palestine avait besoin d'être changée en légende, d'être mythifiée, pour une raison très simple, qu'elle était oubliée et que sa souffrance n'était pas reconnue. De notre côté, cette Palestine-là faisait face, était confrontée à une situation inverse, adverse, contraire, qui précisément lui faisait la guerre à coups et de mythes et de symboles. Aussi, la Palestine s'est-elle trouvée un peu emprisonnée dans un débat qui ne tournait pas uniquement sur son présent, sur son temps présent, mais également sur son passé, qui a été quand même au centre de la dénégation et du fait précisément des mythes avancés par l'autre partie. Car la légitimité historique de l'autre est politique, c'est fondamentalement et principalement fondé sur les mythes et les symboles que sur la réalité. Ainsi, si les Israéliens sont arrivés au début du XXe siècle en Palestine, dans le cadre du retour des Juifs en Palestine cette fois, et ce, sur la base du texte biblique, Cela aurait signifié que la présence palestinienne était de fait illégitime. Ce qui veut dire que tout d'un coup, les Palestiniens qui étaient là devenaient des occupants de la Palestine puisque les enfants légitimes allaient rentrer. Les Palestiniens, à l'époque, n'étaient pas en état d'élaborer les outils conceptuels de leur défense, en tout cas les outils suffisants. Hein. Et donc, ils se sont mis eux-mêmes de leur côté à faire une remontée dans le temps pour bien montrer qu'ils avaient une légitimité antérieure à celle de la présence juive en Palestine. Alors, ils se sont mis à chercher des généalogies cananéennes pour pouvoir riposter contre le récit biblique. Et c'est ainsi que le présent, par contre, fut abandonné au pillage. Et ainsi, le Palestinien s'est trouvé absolument condamné à tout changer en mythe. Tout la Palestine devrait être mythe. Et ce, pour enrichir l'identité culturelle nationale. Et vous savez qu'il n'y a pas d'identité nationale sans mythe. Toute identité nationale a une part mythique. Au bout de ces longues années, le mythe est devenu un fardeau. Un fardeau pour le politique et pour le réel. Surtout à partir du moment où nous sommes engagés dans le processus de paix. Ce processus qui n'a pas commencé à Oslo, mais bien avant. Lorsque les Palestiniens ont reconnu la réalité historique nouvelle, qu'ils ne pouvaient continuer à se faire porter à eux-mêmes tout ce poids mythique. Notamment que l'univers des héros mythiques était achevé et dans le réel et dans la littérature. Donc la Palestine est en quête aujourd'hui d'un nouvel héroïsme. L'héroïsme des gens banaux, d'être banal et normal. Le Palestinien ne veut pas être un héros, ni une victime. Il veut être un être normal. Mais cette tendance, ce désir, se heurte à une résistance israélienne absolument inouïe. C'est pour cela que pour aboutir au banal, nous sommes obligés d'être de nouveau héroïques. C'est ainsi que l'être humain, chez nous, l'être palestinien, est maintenant confronté au besoin de faire une sorte de normalisation avec lui-même. Et pour réussir cette normalisation, il faut incontestablement se libérer du poids des mythes. Et moi, ma poésie, depuis plusieurs années déjà, essaye de briser le mythe que moi-même j'ai fabriqué. Et je dis toujours que la Palestine souffre de plusieurs poids, de plusieurs difficultés. La première, qui est le fardeau de l'occupant. La multitude des prophètes. Et la pesanteur de l'histoire. Et nous essayons de nous libérer en fait des trois. Des prophètes et des occupants.
Yeah. زمان ما تفوس هاي الكهان ولا مجوس ولا ميوعف كل مكان
Dernière partie de, des interventions de Mahmoud Darwish lors de la conférence qu'il donnait à Paris lundi dernier. Voilà, pour conclure, on va mettre un poème, donc il y a la version originale et ensuite la traduction. Un poème extrait de, du livre État de siège, qui est le dernier qui a été publié en France pour l'instant. État de siège, Mahmoud Darwish.
شهيدة بنت الشهيد وأخت الشهيد وأخت الشهيدة كنة أم الشهيد حفيدة جد شهيد وجارة عم الشهيد إلى آخره إلى آخره ولا شيء يحدث في العالم المتمدن فالزمن البربري انتهى والضحية مجهولة الاسم عادية والضحية مثل الحقيقة نسبية إلى آخره إلى آخره إلى آخره.
La martyre, fille de la martyre, fille du martyr, sœur du martyr et sœur de la martyre, et bru de la mère du martyr, petite fille d'un grand-père de martyr, et voisine de l'oncle du martyr, etc., etc. Et rien de nouveau dans le monde civilisé. Les temps de barbarie sont passés, la victime est anonyme, banale, la victime, comme la vérité est relative, etc., etc.
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أناديكم
أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي
وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي
حملت دمي على كفي